soir, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, a été élu lundi dernier à la tête de la Commission de l'Union africaine. Il remplace la sud-africaine Kossa Zana Dlamini Zuma, dont plusieurs observateurs jugent le bilan mitigé dans la gestion des crises à travers le continent. Quels sont les défis qui attendent les nouveaux présidents de la Commission de l'Union africaine? C'est le thème du dialogue entre Congolais de ce mercredi 1er février 2017. Participe au débat professeur Bob Kebamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur Bob Kebamba, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir les auditrices et aux auditeurs de Radio Kabi.
Professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur Maindo, bonsoir.
Bonsoir madame.
Et Maître Achille Kabongo, président de l'Institut congolais d'études et d'analyse stratégique, qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Merci parce que vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Jean-Pierre Mondey Anikanda depuis Wamba dans le Haut-Touélé. Le grand défi est de transformer l'Union africaine, qui est considérée aujourd'hui comme un syndicat des chefs d'État dictateurs, en une machine des promotions des valeurs démocratiques. Merci de nous suivre par son RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, rejoignez-nous sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'Union africaine a élu lundi 30 janvier dernier à Addis Abeba en Éthiopie Moussa Faki Mahamat au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Cette institution est aussi considérée comme le secrétariat de l'Union africaine. Moussa Faki remplace Kossa Zana Dlamini Zuma, dont le bilan est jugé mitigé par plusieurs analystes. Des précisions avec vous, Berry Franklin Luchaka.
À 57 ans, le Tchadien Moussa Faki Mahamat est le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, qui est aussi très proche du président tchadien Idriss Déby Itno. Moussa arrive en politique dans les années 94, où il a occupé les postes de directeur général du ministère des Postes et Télécommunications, président du conseil d'administration de la conférence des administrations des postes et télécommunications de l'Afrique centrale. Ce professeur à la faculté de droit et de gestion de l'université de N'Djamena a occupé plusieurs fonctions, dont la dernière est ministre des Affaires étrangères du Tchad. À la Commission de l'Union africaine, il remplace en Kossa Zana Dlamini Zuma, la Sud-Africaine. En 2012, la Sud-Africaine a été élue sur d'ambitieuses promesses. Lors de sa campagne pour la présidence de la Commission, Madame Zuma avait fortement critiqué l'effacement de l'Union africaine dans la gestion de la crise libyenne et de la crise post-électorale de 2011 en Côte d'Ivoire. Force est de constater, selon plusieurs analystes, que la Sud-Africaine n'a pas tenu ses grandes promesses de sa campagne électorale de 2012. Par exemple, la paralysie de l'Union africaine lors de la crise Ebola ou son incapacité à tenir tête à certains chefs d'État qui ont entrepris de modifier ou de contourner leur constitution pour se maintenir au pouvoir, la voix de l'Union africaine qui n'a pas été prépondérante au Soudan du Sud ni en Centrafrique, encore moins au Mali ou en Libye. Le Burundi est aussi un cas d'école où l'Union africaine a été incapable de déployer un contingent militaire après en avoir fait la promesse publiquement. En RDC, Kossa Zana Dlamini Zuma a tenté de reprendre la main sur la situation politique en mettant à la disposition des acteurs politiques un facilitateur en la personne de l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo. Une initiative qui a abouti à la signature en octobre dernier d'un accord de sortie de crise qui pourtant a été contesté par une partie de l'opposition congolaise qui a boycotté le dialogue sous sa médiation.
Merci Berry Franklin Luchaka, professeur Bob Kabamba. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur, comment vous avez accueilli l'élection du Tchadien Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine?
Il y a plusieurs choses que l'on peut essayer déjà de relever par rapport à cette élection. Il y a, dans un premier temps, on a l'impression d'abord qu'il s'agit d'une espèce de gratification que les différents chefs d'État ont voulu donner à Idriss Déby. En titre de mémoire, vous devez savoir que le Tchad est quand même intervenu dans plusieurs conflits de l'Afrique de l'Ouest, et non seulement l'Afrique de l'Ouest, mais aussi de l'Afrique centrale, et que le Tchad est toujours en avant-plan par rapport à la lutte contre Boko Haram, contre l'extrémisme radical musulman dans le Sahel. Et donc on a l'impression qu'il s'agit d'une espèce de gratification par rapport à tout ce que l'Idriss Déby a pu apporter dans cette lutte contre le terrorisme. Et dans un deuxième temps, il faut bien se rendre compte qu'il y a une dimension linguistique qui joue quand même beaucoup dans cette élection, puisque dans un premier temps, comme vous le savez, c'était d'abord Mme Zuma, qui est anglophone, qui était élue lors du dernier mandat, et qu'elle avait battu un francophone. Et ici, on a l'impression que les pays francophones ont voulu, cette fois-ci, ne pas diviser leur voix et essayer, dans la mesure du possible, de soutenir un candidat francophone pour que ce mandat soit dirigé par un francophone. Et enfin, il y a aussi ce qu'on appelle les équilibres régionaux. Les équilibres régionaux qui se tissent généralement au sein donc de l'Union africaine. Par moment, s'il y a une espèce d'équilibre au niveau l'ancien mandat a été occupé par l'Afrique australe et a été battu, c'était l'Afrique centrale qui avait été battue à l'époque. Et donc, il va de soi que cette fois-ci, le Tchad avec l'Afrique centrale soit préféré à tous les candidats. Alors, mais je peux ne pas souligner quand même que Moussa Faki Mahamat a quand même aussi un CV quand même assez impressionnant, du fait qu'il est resté quand même aussi ministre des Affaires étrangères de Idriss Déby pendant longtemps et qu'il a pu apporter quand même beaucoup, beaucoup de choses au niveau de la diplomatie, mais aussi au niveau des différents combats que je viens de citer tout à l'heure, parce que c'est lui qui était à l'avant-plan quand même lorsqu'il fallait pour défendre la position donc du Tchad. Mais la crainte que j'ai, c'est que avec tout ceci, on aurait presque l'impression que Idriss Déby, en poussant son ancien ministre des Affaires étrangères, va pouvoir avoir aussi une prolongation de son pouvoir tchadien sur le continent africain à travers donc le président de la Commission de l'Union africaine. Donc on aura une espèce de, j'aurais plus l'impression du fait qu'il est même très proche de Déby, donc la politique telle qu'elle a été menée par le Tchad va se poursuivre, j'ai l'impression, au niveau même du continent africain.
Alors, votre ligne se détériore, professeur Bob Kabamba. Est-ce que vous êtes toujours en ligne?
Je suis toujours en ligne, madame. Je suis toujours en ligne.
Voilà. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat remplace Kotazana Dlamini Zuma, dont plusieurs observateurs jugent le bilan mitigé durant tout son mandat de 4 ans. Il faut préciser. Comment vous jugez, président, le bilan de madame Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine? Est-ce que vous partagez le point de vue de ces observateurs qui disent que son bilan a été mitigé?
Mais vous devez savoir une chose, hein. Lorsque l'on parle effectivement de ce poste, et ce poste n'est pas, il n'a pas beaucoup de pouvoir. Ceux qui ont du pouvoir au niveau de l'Union africaine, ce sont les chefs d'État, c'est-à-dire le sommet des chefs d'État qui a le plus de pouvoir, et c'est eux, les États, qui sont en avant-plan, qui sont des acteurs au niveau international. Et donc sans les États, Mme Zuma est tout à fait démunis pour pouvoir essayer de mobiliser les autres pays lorsqu'il s'agit de pouvoir, par exemple, mobiliser des pays pour avoir des troupes pour envoyer dans un autre pays qui est en conflit. Cette décision-là ne dépend pas de Mme Zuma, ne dépend pas des États.
Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas eu le soutien? Elle n'a pas eu le soutien des États?
Elle n'a pas eu beaucoup de soutien des États. Je peux vous donner plusieurs exemples. Lorsqu'elle a pris la décision, par exemple, par rapport au Burundi, mais elle n'a pas été, alors pas du tout, suivie par les autres États pour mobiliser les 5000 hommes nécessaires pour pouvoir déployer en Afrique, au Burundi. Il y a de plusieurs... Elle a voulu mobiliser l'Afrique sur la question d'Ebola. Ça a été suivi nécessairement par les autres pays sur la question d'Ebola, pour la bonne et simple raison que ce sont les États qui définissent. Ce sont toute cette politique qui est menée au niveau du continent dépend des États. Et tout à l'heure, quand je vous ai parlé, par exemple, par rapport au Tchad vis-à-vis de la lutte contre le terrorisme, c'est l'État tchadien qui a envoyer les troupes, qui a accepté que ces troupes participent à ces différentes actions. Et donc c'est l'État qui est l'acteur par rapport à ces différents enjeux, et la Commission, elle est là comme une espèce de représentation, je veux dire, du continent africain, d'autant plus qu'elle n'a pas non plus des moyens financiers pour pouvoir permettre au président de la Commission de mener une véritable politique autonome et qui est véritablement importante.
Alors, la qualité de votre ligne se détériore, la réalisation. On va essayer de vous rappeler, professeur Bob Kiabamba, professeur Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne, Paris 1, et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur Maïndo, comment vous avez accueilli l'élection du Tchadien Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine?
Oui, alors, mais oui, madame, merci beaucoup. Je pense qu'il y a, si je peux dire un mot par rapport à ça, je pense que ça fait partie de cette espèce d'entente qu'il y a au sein de l'Union africaine pour, entre les différentes régions. Donc on a l'Afrique australe, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord, et puis la Corne de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a une espèce de consensus pour qu'il y ait des rotations en ce qui concerne l'occupation des fonctions. Donc ça, c'est la première impression de savoir, voilà, c'était avant, il y avait l'Afrique de l'Ouest, puis il y a eu l'Afrique de australe, et maintenant c'est l'Afrique centrale. Donc ça tournera encore. Et deuxièmement, il faut dire aussi qu'il y a un travail qui s'est fait aussi au niveau de personnalité. Il faut rappeler que M. Moussa Faki, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad. Et Déby, président de l'Union africaine, il a dû accompagner Déby. Et il a fait pas mal de rencontres, il a tissé des réseaux au sein de l'Union africaine et de ses institutions à Addis, mais aussi des missions à travers l'Afrique. Donc il a pu se faire connaître des autres États et pour pouvoir convaincre notamment la sous-région de l'Afrique centrale, mais aussi des autres sous-régions pour s'imposer. Alors on peut aussi dire que c'est aussi une espèce de reconnaissance ou on peut dire plutôt une prime à l'interventionnisme tchadien.
Comme l'a dit le professeur Bob Kiabamba.
Oui, tout à fait. C'est une espèce de prime à cet interventionnisme tchadien qui est le Tchad qui est intervenu dans plusieurs crises africaines, RCA, et puis au Nigeria, contre Boko Haram, au Mali, etc. Donc là, on voit que les Tchad est sur tous les fronts des grands conflits, en particulier en ce qui concerne la lutte antiterroriste. Et donc, le Tchad s'impose ainsi comme une puissance régionale incontournable. Voilà, ça confirme en ce moment.
Alors, le prof pense aussi que la dimension linguistique a beaucoup joué par rapport à l'élection de Moussa.
Bon, je ne pense pas que la dimension linguistique ait joué un rôle très important dans le choix de Moussa, puisque la plupart des pays de l'Afrique francophone sont, disons, de l'Afrique centrale sont francophones. Hein. Si vous regardez la carte, à part au Cameroun où c'est bilingue, tous les autres pays de l'Afrique centrale sont plutôt francophones, peut-être à part l'Angola qui est lusophone ou la Guinée qui est lusophone également, mais tout le reste c'est des pays francophones. Donc ça va de soi qu'il y ait un pays francophone. Mais on aurait pu, si on voulait voir vraiment un grand pays francophone, on aurait pu prendre la RDC. Mais là, c'est d'autres enjeux. La force de l'État, l'influence de son chef d'État, sa capacité d'intervention dans les crises africaines et tout ça. Donc il y a tous ces paramètres-là, mais également le fait que ces pays contribuent plus ou moins au budget de l'Union africaine. Parce que si vous ne contribuez pas au budget de l'Union africaine, donc il y aura aussi des espèces de limitations en ce qui concerne la participation de vos ressortissants dans les institutions de l'Union africaine. Voilà. Donc alors, je pense que c'est plus ces facteurs-là qui ont joué.
Alors parlons du bilan de Mme Zuma, que M. Moussa vient de remplacer à la tête de la commission. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dénoncer le manque de courage politique de Mme Zuma, son absence de vision, sa diplomatie sélective. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je pense que... Moi, je ne dirais pas ça. Je pense que Mme Zuma a été quand même une grande dame à la tête de la commission africaine. Elle avait une grande vision pour une Afrique, elle a voulu porter la voix de l'Afrique, elle a porté des valeurs, elle a défendu des valeurs démocratiques et autres. On a vu que Mme Zuma avait vraiment une vision. Mais ceci dit, La Commission africaine n'a pas les pouvoirs qu'on lui attribue. Les prérogatives de la Commission africaine sont quand même limitées. Et au sein de l'Union africaine, c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui est l'organe suprême de décision qui peut engager. Et si on ajoute à ça le fait que les pays dont elle est originaire, c'est un pays qui a une politique assez, j'allais dire, agressive au niveau du continent, et certains leaders africains voient d'un mauvais œil, là, si vous voulez, cette tendance prédominante de l'Afrique du Sud, hein, qui ne s'est pas non plus montrée très accueillante sur sa propre terre. Donc il y a des réticences à ce niveau-là pour le leadership des Africains par rapport à d'autres pays.
Mais en postulant de son élection aussi en 2012, professeur Maindo, en postulant, Madame Zuma a fait croire qu'elle pouvait faire bouger les choses au niveau de l'Union africaine, faire changer certaines pratiques au niveau de cet organe africain.
Oui, justement, vous pouvez avoir de l'ambition, vous pouvez avoir la volonté de faire quelque chose, mais ce n'est pas le président ou la commission ou le président de la commission africaine qui décide et qui va changer les choses. Comme je le disais, c'est la conférence des chefs d'État qui est l'organe qui peut faire bouger les choses. Et quand on sait aussi qu'il y a beaucoup d'intérêts des chefs d'État, qui sont les principaux responsables de ces crises-là? Si vous voulez, la plupart du temps, ce sont ces mêmes gens-là qui se réunissent au sein de la conférence. Et donc, ils ne peuvent pas se détruire mutuellement. Et donc, du coup, la présidente navigue un peu à contre-courant et elle était à porte-à-faux. Donc, et en plus de ça, et même si la conférence des chefs d'État la suivait, alors, mais les moyens de l'Union africaine sont quand même limités. Il faut savoir que la plupart des interventions que l'Union africaine fait ou a faites en Afrique, ça a été avec les finances étrangères de
Merci,
l'Union européenne, des États-Unis, tout ça.
Merci, professeur. On vous redonne la parole tout à l'heure. Achille Kabongo, président de l'Institut congolais d'études et d'analyse stratégique. Monsieur Kabongo, quelle est votre lecture par rapport à l'élection du Tchadien Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine?
J'aimerais dire ceci. Je ne sais pas. Je me place sur un point de vue d'analyste. Et je vous ai toujours dit qu'à l'Institut congolais d'études et d'analyse stratégique, notre caractéristique a toujours été d'enfoncer le clou par les pointes, c'est-à-dire de toucher là où ça fait mal. Il y a ceci. Cette élection échappe pratiquement aux Africains.
Pourquoi vous dites ça?
Quand nous avons analysé, nous y voyons la main de la France-Afrique. Vous comprenez? Le Gabon avait soutenu à trois reprises le président tchadien Idriss Déby lorsque le président Omar Bongo était au pouvoir. Ils l'ont empêché de sombrer. La candidature de Jean Ping aurait été soutenue par le Tchad à l'époque. Mais le Tchad a sacrifié Jean Ping. Le président Ali Bongo Ondimba avait claqué la porte de la réunion de Cotonou et a été rappelé par le président Boni Yayi, nous nous rappelons. C'est là, Jean Ping a été lâché. Et on a préféré la candidature de la Sud-Africaine Kosazana Dlamini Zuma. Contre les avis experts de certains membres de l'Union africaine à l'époque, quelle histoire écoutez? Je vous pose une question, en vous regardant droit dans les yeux. Avez-vous déjà vu un citoyen de l'Allemagne réunifiée être élu président de la Commission européenne? Avez-vous déjà vu un Américain, un ressortissant des États-Unis d'Amérique, être élu secrétaire général des Nations Unies? Non.
Alors vous voulez faire allusion à quoi?
Je fais allusion à l'Afrique du Sud. Les experts avaient attiré l'attention à l'époque pour dire que l'Afrique du Sud étant la première puissance économique d'Afrique, ne pouvait pas présenter un candidat pour être élu à la commission de la présidence de l'Union africaine. Regardez, en l'espace seulement d'une année, l'Afrique du Sud avait maîtrisé complètement une emprise terrible sur l'administration de l'Union africaine et la contrôlait intégralement. Et là où le bât blesse, regardez, beaucoup ont constaté les répercussions d'avoir fait élire Kosanzala Dlamini Zuma à la tête de l'Union africaine. Madame Kosanzala ne dirigeait pas l'organisation avec les experts de l'Union africaine.
Elle le faisait avec qui?
Elle le faisait avec un deuxième cabinet noir Et ce cabinet était constitué de 33 conseillers sud-africains, des fonctionnaires sud-africains.
Vous tenez d'où ces informations?
Écoutez, c'est des informations avérées, véridiques. Je suis en contact avec les experts de l'Union africaine. Je suis président de l'Institut congolais d'études et d'analyse stratégique. Croyez-moi. Ces 33 fonctionnaires sud-africains n'étaient pas payés aux frais de l'Union africaine. Ils étaient payés aux frais du gouvernement sud-africain. Et qu'est-ce que l'on a constaté? La présidente de la commission de l'Union africaine est devenue une servante des chefs d'État, une secrétaire entourée de technocrates démotivés qui assurent une impunité totale aux puissants. Ça, c'est le constat d'un diplomate africain. Par exemple, la plupart des chefs d'État qui ont changé de constitution dans leur pays auraient dû être sanctionnés. Mais le mandat de Mme Dlamini Zuma était devenu un mandat de compromission. Je vous donne ici quelques exemples. Vous vous rappelez la crise au Burundi,
s'il
vous
plaît. Elle n'était pas soutenue par les États.
La crise au Burundi. Après, lorsqu'il s'est déclenché une crise au Burundi, Mme Dlamini Zuma avait promis l'intervention. Mais le 31 janvier 2016, l'Union africaine a dû renoncer au déploiement de 5000 hommes au Burundi dans le cadre d'une mission de stabilisation. Vous comprenez? Il en est de même au Sahel, il en est de même au Soudan du Sud, il en est de même au Darfour. Rien du tout. Nous ne voyons pas ce que Mme Dlamini Zuma fait. Regardez quelle tonicité.
Vous jugez son bilan de
catastrophique. Face à Ebola, il aura fallu près de 8 mois et 2800 morts pour que l'Union africaine décide d'organiser une première réunion d'urgence. Et ça, je vous dis que c'est très grave. Prenons le budget de l'Union africaine. 416 millions de dollars. Si nous convertissons en euros, ça fait 315 millions d'euros. Le tiers de ce budget-là, de 315 millions d'euros, est destiné au fonctionnement. Mais 92% de ce budget de 416 millions de dollars américains vient de l'extérieur. Les pays africains ne cotisent pas. Seul le Soudan d'Omar el-Béchir a cotisé avec 6 millions de dollars. Ce qui lui a valu une ovation. Et comment une protection, malgré qu'il est poursuivi par la Cour pénale internationale. Donc nous allons vous dire que le bilan de Mme Zuma a été un bilan catastrophique. Et nous disons ceci, qu'il ne faudrait pas en Afrique.
Il était temps alors de changer quelqu'un à la tête de la commission.
Il était temps de changer. Et nous, à l'époque, on avait attiré l'attention des présidents de l'Afrique pour dire qu'il ne fallait pas qu'elle se représente. Ça devait être son dernier mandat.
Merci Achille Kabongo. Professeur Bob Kiabamba, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Amos Bissi, moi j'appelle à partir de la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. Comme les filles qui attendent le nouveau président de l'Union africaine, il doit envisager des mesures contraignantes à l'égard de tous ces chefs de l'État africain qui ont toujours violé délibérément les constitutions de leur pays pour s'éterniser aux affaires, et cela en dépit de l'échec de beaucoup d'entre eux à répondre aux attentes de leurs administrés, créant ainsi des crises dans leur pays. Il doit travailler pour constituer une armée africaine capable et prête à intervenir dans tel cas comme nous venons de le vivre en Gambie avec la CEDEAO. Cela permettra aux peuples africains de vivre la vraie démocratie à l'instar d'autres pays du monde.
Alors, professeur Bob Kiabamba, c'est vrai qu'il y a un nouveau président à la tête de la Commission de l'Union africaine. Il y a sûrement des défis qui attendent Mahamat Moussa Faki. Selon vous, quels sont ces défis lorsque vous suivez, par exemple, cet auditeur qui estime que le nouveau président doit envisager des mesures contraignantes à l'égard de tous ces présidents qui ont toujours violé leur constitution?
Oui, c'est une excellente question. Malheureusement, le nouveau président ne pourra rien faire par rapport à cette question-là. Pour la bonne et bonne simple raison que la réponse, la décision appartient malheureusement aux chefs d'État. Et ce sont ces mêmes chefs d'État qui vont être obligés de prendre des mesures contraignantes contre eux-mêmes. Madame, ça ne sera pas possible qu'ils prennent des mesures contre eux-mêmes. Quand on regarde effectivement la liste des pays africains où il y a des problèmes liés aux problèmes des élections qui ne se passent pas bien, liés aux questions du troisième mandat, liés aux questions des guerres, et ce sont ces mêmes présidents qui vont prendre eux-mêmes la décision de pouvoir se contraindre eux-mêmes. Ça serait
vraiment difficile.
Donc vous pensez que c'est très difficile?
Ce sera la même chose. Sur la question de l'armée, ce sera la même chose. C'est-à-dire que s'il faut constituer une armée africaine, il faut que les États s'engagent à pouvoir déployer, mettre à disposition ces militaires pour que ces militaires participent à des opérations militaires. Et ces opérations militaires, malheureusement, ça a un coût. Et le coût de ces opérations militaires, très peu, voire aucun pays africain n'est en mesure de pouvoir contribuer suffisamment avec ses propres moyens dans une force de maintien de la paix sur le continent. Néanmoins, sur les enjeux, je pense, qui attendent le nouveau président, c'est d'essayer, de mon point de vue, je pense, de préparer toute une série quand même de dossiers qui sont des dossiers pendants, qui concernent surtout la sécurité du continent, avec les différents conflits que l'on a épinglés, le Darfour, la Libye, le Mali, Boko Haram. Je pense que le président donc Moussa Faki va plus se focaliser sur ces conflits-là, sur la dimension sécuritaire, beaucoup plus sur la dimension sécuritaire que sur la dimension politique. Alors comment voulez-vous que M. Moussa Faki puisse aller à l'encontre des politiques que mène, par exemple, Idriss Déby? Idriss Déby, c'est quand même un régime autoritaire. Les élections ne sont pas très bien passées dans son pays. Et vous imaginez, vous allez voir Moussa Faki comment condamner, demander à ce que l'on puisse condamner Idriss Déby au niveau du continent. Et je ne pense pas que ce sera quelqu'un qui va se prononcer sur ce genre de choses.
Et donc, il ne faudrait pas attendre grand-chose de M. Moussa Faki?
Il ne faudrait pas attendre grand-chose parce que son pouvoir dépendra de la volonté et de la capacité de
chef d'État
à s'engager véritablement.
Alors, il y a cet auditeur Jean-Pierre Mondeil, voilà, il nous écrit depuis Wamba dans le Haut-Ouélé, lui qui pense que le grand défi est de transformer l'Union africaine, qui est considérée aujourd'hui comme un syndicat de chefs d'État dictateurs, en une machine de promotion des valeurs démocratiques. Est-ce qu'on peut considérer l'Union africaine aujourd'hui comme un syndicat de chefs d'État dictateurs, professeur Bob Kabamba?
Vous savez, lorsque l'on parle des régimes politiques sur le continent africain, on peut les classer en trois catégories. Il y a d'abord ce qu'on appelle les régimes autoritaires, qui sont quand même pas majoritaires sur le continent. Néanmoins, il y a ce qu'on appelle des régimes politiques de la décompression autoritaire. C'est-à-dire c'est des régimes qui sont des régimes autoritaires, mais où on organise des élections, où il y a des opposants, mais néanmoins, c'est un régime qui fonctionne de manière autoritaire, mais qui n'est pas démocratique, mais qui n'est pas très autoritaire, puisqu'il y a des élections, il y a des opposants, il y a une certaine liberté de la presse. Néanmoins, il y a une espèce de consolidation du pouvoir par un système électoral. C'est ça qu'on appelle les pays de la décompression autoritaire, et ces pays-là, malheureusement, sont les pays qui sont nombreux sur le continent. Et bien entendu, il y a quelques pays que l'on peut dire que c'est véritablement ce sont des pays démocratiques. Et donc on ne peut pas dire véritablement que l'Union africaine est un syndicat des présidents des dictateurs, puisque il n'y a pas de dictateurs dans tous les pays africains. Il y a quand même des pays où la démocratie avance, où la démocratie est consolidée. Je pense au Ghana, je pense au Bénin, qui sera un des pays où on a eu une consolidation de la démocratie avec des alternances politiques qui se sont bien déroulées sans violence et sans beaucoup de difficultés.
Merci, professeur. Qui
sont de la décompression autoritaire.
Merci, professeur Bob Kabamba. Professeur Alphonse Mahinda, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Badolité.
Moi, c'est Maître Franklin Bongwangé à partir de Badolité. À mon avis, le défi se résume en deux. Primo, la sortie de l'Afrique du jour colonial, secundo, la mise à place d'une autonomie financière, car tant que les fonds pour soutenir les priorités africaines viennent à 90% d'ailleurs, les décisions heurtant les intérêts des bailleurs occidentaux ne sauront s'appliquer en Afrique.
Alors, professeur Alphonse Mahinda, il y a aussi Achille Kabongo qui a dit tout à l'heure que cette élection a échappé à l'Afrique.
Oui,
alors. On y voit l'ombre de la France africaine.
Oui, d'accord. Je remercie notre ami de Guadeloupe, Franklin, pour sa question. Évidemment, il pose là une question de fond. Alors, si l'on veut véritablement faire de l'Union africaine un outil de développement, Il faut qu'il y ait, on puisse lever le défi de l'autonomie financière. Et le président, depuis le début, justement, quand il prenait la présidence de l'Union africaine, il avait souligné l'importance de cette question où les États membres devaient cotiser. Et c'est quand même assez dommage que même les outils, qu'on a des outils de défense africaine, puisqu'on parlait tout à l'heure là de forces africaines pour maintenir la paix, pour défendre les droits de l'homme et tout ça. Évidemment, l'Union africaine avait décidé d'avoir ce qu'on appelle les stand-by forces, les forces africaines prépositionnées. Mais l'Union africaine n'a jamais mis le budget pour ça. Et quand on sait, c'est l'Union européenne qui finance ça via la facilité de ce qu'on appelle African Peace Facility. Et donc on est là, et il y a aussi d'autres initiatives, notamment étatiques comme pour la France avec le RECAMP, ou les États-Unis aussi qui financent pour former des troupes africaines qui pourraient faire des maintiens de la paix et qui pourraient défendre, déployer sur le continent africain. Alors donc, l'autonomie financière, c'est quelque chose d'essentiel. Si on n'arrive pas à faire ça, que l'Union africaine puisse avoir ses propres moyens pour décider et agir sur le continent, eh bien, on va toujours avoir ceux qui donnent l'argent qui vont pouvoir imposer leur pouvoir sur ça. Alors, mais ceci dit, on peut changer la donne. On a vu quand même qu'avec Idriss Déby, hein, pour ce qui concerne le Tchad, que même si on n'a pas le moyen, mais qu'on a des capacités militaires et qu'on peut s'imposer ainsi. Et c'est ce qu'il y a. Le Tchad s'est imposé, hein, comme un acteur incontournable, alors qu'elle fait face à des difficultés financières importantes, et parce qu'elle a des troupes qui ont fait la différence sur le terrain et qui ont collaboré avec, pour neutraliser des éléments terroristes. Alors, ceci dit, pour ce qui concerne les joues coloniales, vous savez que aujourd'hui, on peut plus parler de joues coloniales, on parlera plutôt du néocolonialisme, qui est une nouvelle forme de colonisation qui est plus subtile à travers les travail des à travers les élites africaines qui sont formées dans des écoles, dans des universités ou dans les académies militaires de ces puissances, de ces ex-puissances coloniales. Mais ce n'est pas seulement les puissances coloniales. Les États-Unis n'ont jamais colonisé l'Afrique, mais les États-Unis ont quand même aussi une place importante dans les politiques africaines, dans la défense africaine. Mais la Chine n'a jamais colonisé l'Afrique. Mais la Chine, elle est de plus en plus présente en Afrique aujourd'hui pour intervenir. Donc on ne peut pas parler de joug colonial parce que la Chine n'a jamais colonisé l'Afrique. Donc on est là, si vous voulez, en termes de, on parlerait plutôt en termes d'hégémonie ou de domination de puissance mondiale. Et ça, on ne peut pas y échapper, sauf à se mobiliser véritablement pour se mettre au travail, se développer. Alors je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler quand même que la première puissance africaine, ce n'est pas la République sud-africaine, hein. Disons, c'est plutôt le Nigeria qui est la première puissance économique africaine. On a souvent tendance à les penser, mais c'est le Nigeria qui est la première puissance économique en Afrique. Et l'Afrique du Sud vient après. Et donc, c'était important que je revienne sur ça. C'est une grande puissance économique en Afrique, mais elle n'est pas la première. C'est le Nigeria.
Oui, professeur, voilà. Il y a Christian Babunga Mutimanwa de Bukavu qui dit ceci: on ne peut rien attendre de la part de ce nouveau président de la Commission de l'Union africaine, car il vient d'un pays qui n'est pas un bon exemple en matière de démocratie et de bonne gouvernance.
Bon, écoutez, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on ne peut rien attendre. Et évidemment, sur les questions de démocratie, sur les questions de droits de l'homme, on ne peut pas beaucoup attendre de lui. On sait qu'il est le dauphin, plutôt il est un protégé de Idriss Déby, dont on connaît la foi en la démocratie et dans les droits de l'homme. Mais donc on peut pas faire trop confiance sur ces questions-là. Mais par contre, il y a des choses sur lesquelles ils peuvent vraiment faire des choses, ils peuvent faire la différence. Je le disais tout à l'heure, et le prof Kabamba aussi est revenu sur ça, c'est la question de l'interventionnisme militaire dans des crises comme dans des zones de non-grises, des zones grises comme la zone sahélo-sahélienne, le Niger, la Libye, tout ça là où il y a le Mali, le nord du Mali. Et donc là, la RCA. Donc à mon avis, pour ce qui concerne des crises, on peut attendre quand même des interventions plus musclées de la part du Tchad. Hein.
Merci.
Et surtout, ça sera essentiellement pour défendre les régimes en place, hein. J'en doute pas.
Mais
au moins, sur ce plan-là, je pense qu'Idriss Déby pourrait, à travers son ministre, disons, qui est devenu aujourd'hui président de l'Union africaine, pourrait soutenir son action, parce que c'est quand même lui qui a voulu qu'il soit là. Oui.
Merci, professeur Maïndo. Achille Kabongo, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Lubumbashi.
François Moulila de Lubumbashi. Le bilan de l'ex-présidente de la Commission africaine est plus que mitigé. Ainsi, pour ce qui est des défis à relever par le nouveau président sont nombreux, mais le plus urgent semble. Rétablir la confiance entre l'Union africaine et le peuple africain. Créer l'autonomie financière. 3. Sanctionner les pays qui ne s'acquittent pas de leurs engagements financiers, politiques et sécuritaires. 4. Appliquer les sanctions sans complaisance aux chefs qui violent le droit de l'homme et du peuple. 5. Mettre en pratique le projet sur l'armée en attente africaine.
Achille Kabongo.
Oui. En tout cas, merci. Monsieur François Moulila, il a appelé de Lubumbashi. Mm-hmm. C'est très intelligent. Et je vais le compléter en disant, Monsieur François, écoutez, la problématique qui se pose à la Commission de l'Union africaine est une problématique de leadership. Il manque une certaine forme de leadership. Bien sûr, il y a un des professeurs qui l'a relevé. Le président ou la présidente de l'Union africaine ne faisait qu'appliquer les décisions prises par les 54 chefs d'État. Mais attention, ils ne décident pas à leur place. Le président de la Commission ne décide pas à la place des chefs d'État. De plus, mais le président a quand même cette prérogative de mettre les choses en bon ordre, d'impulser une dynamique, de mettre une musique continentale, c'est-à-dire de provoquer ce concert-là de musique, de créer une certaine impulsivité pour pouvoir imprimer une dynamique de prise de position africaine selon un tel problème ou selon un autre. Quelle histoire ! Vous savez que quand Radio Kapima a lancé l'invitation, j'essaie d'être en contact avec un diplomate qui travaille au niveau de l'Union africaine en ce qui concernait le mandat de Mme Constanza Ndlamini. Écoutez ce qu'il a dit. Pendant la présidence de la Sud-Africaine, la commission était en lambeaux. Le personnel était démotivé et la présidente désintéressée des problématiques africaines, plus soucieuse de sa carrière nationale en Afrique du Sud que de l'avenir du continent. Elle a été trop absentéiste. Elle n'était presque pas présente à Addis Abeba. Elle quittait Addis Abeba pour participer aux réunions de l'AMC, l'African National Congress en Afrique du Sud, et autres priorités politiques. Et c'est le cabinet des 33 fonctionnaires SUDAF, payés pas par l'Union africaine, mais par le gouvernement sud-africain, qui faisait le travail à sa place.
Et là, quels sont les défis qui attendent le nouveau président de la Commission de l'Union africaine? C'est vrai que, comme le prof Maïndo l'a dit, on ne peut pas trop espérer sur les questions de droits de l'homme et des bonnes gouvernances, mais quand même, sur la question d'interventionnisme militaire, on peut quand même penser qu'il pourrait faire quelque chose.
Il va faire quoi? Je ne sais pas. Quand j'ai dit on est sous l'emprise de la France-Afrique, je vous donne un exemple aujourd'hui. Combien de bases militaires françaises sont en Afrique sans que l'Union africaine intervienne? Aujourd'hui, dans les casernes des troupes africaines, on voit que des troupes étrangères coexistent à côté de l'armée nationale dans les mêmes casernes. C'est très grave. Combien de bases militaires américaines existent sur le continent? Vous comprenez? Nous sommes face à Boko Haram. Le Tchad était en tête. C'est peut-être bien que le Tchad ait pris la présidence de la Commission africaine pour imprimer une certaine dynamique de lutte contre cette forme-là de terrorisme. Mais en ce qui concerne, par exemple, la cour d'assises des chambres africaines extraordinaires qui a jugé l'ancien président tchadien Hissène Habré au Sénégal, qui a siégé au Sénégal, vous comprenez? Moi, je ne vois pas encore l'issue de cette cour-là en ce qui concerne les autres conflits des autres États africains. Par exemple, quand on met un Tchadien à la tête, s'il faut appliquer les décisions prises contre Idriss Déby, par exemple au Tchad, et qu'il y a maintenant un Tchadien à la présidence de la Commission de l'Union africaine, mais ça ne servait à rien d'avoir créé ces chambres africaines extraordinaires. Vous voyez que c'est très grave. Alors, quand François Moulin l'a dit, les défis à relever. Oui, il y a des défis à relever. Pourquoi? L'Afrique a besoin d'un réarmement moral. Et l'Union africaine a dû être un outil à la priorité. C'est-à-dire, il faudrait qu'au niveau de la Commission africaine, le Tchadien qui est Moussa Faki Mahamat, il faut qu'il ait un leadership puissant pour pouvoir canaliser toutes les forces. Sinon, je vous assure que l'Afrique n'est pas défendue. Cette organisation-là, la commission de l'Union, c'est tout simplement un tampon en caoutchouc. C'est comme, vous savez, c'est tout simplement un leurre, un vernis qui pratiquement n'impulse même pas la dynamique. C'est-à-dire, au niveau du continent, nous sentons que cette organisation ne protège pas réellement les pays. Cette organisation est en train de servir, au contraire, les intérêts de certains chefs d'État. Vous voyez,
on ne peut... Et ça va continuer, vous pensez, avec l'élection d'un nouveau président?
Oui, ça va continuer. Vous savez que, par exemple, je vous donne seulement un exemple. L'Union africaine reconnaît le Front Polisario depuis 1984, le Maroc ne le reconnaît pas. Aujourd'hui, regardez l'admission du Maroc au sein de l'Union africaine. A-t-elle obéi à des prérogatives qui ont été arrêtées auparavant? Qu'est-ce qui a présidé à cette admission du Maroc sans que réellement le Maroc ne puisse reconnaître le Front Polisario? C'est ça le problème. Et pourtant, l'Union africaine reconnaît le Front Polisario depuis 1984. Vous voyez un peu, il y a des choses qui président ou des forces qui interviennent dans, le fonctionnement de l'Union africaine et qui échappent aux Africains eux-mêmes. Il ne faudrait pas que Moussa Faki Mahamat puisse se comporter
Achille
Kabongo, être dépourvu de vision.
On va vous redonner la parole pour conclure, Achille Kabongo, professeur Bob Kabamba. Faut-il finalement réformer l'Union africaine?
Oui, je pense que ça savoir qu'il faut vraiment réformer l'Union africaine, parce que le projet, il est un projet qui mérite d'être soutenu. Et soutenu par rapport aux objectifs des pères fondateurs de l'Union africaine. Malheureusement, cette réforme est difficile à mener, parce qu'il y a beaucoup de problèmes liés d'abord à l'absence de volonté politique de la plupart des dirigeants africains. Et ensuite, il y a malheureusement une absence même assez grave d'un leadership continental, véritable continental, puisque vous devez savoir que lorsque l'Union africaine, l'OUA est devenue Union africaine, ça a été sous l'impulsion de Kadhafi qui voulait s'imposer comme véritablement un leader du continent. Et alors, maintenant que Kadhafi n'est plus là, comme si vous regardez le contexte géopolitique de l'Afrique, malheureusement, il manque encore un leader qui pourrait, de manière claire, porter le projet de réforme de cette institution, par exemple, en donnant plus de pouvoir à différentes institutions qui sont sur le papier, mais qui malheureusement souffrent d'un manque clair de pouvoir et surtout de moyens de fonctionnement, puisque la plupart des pays ne payent pas leurs cotisations, et il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont en retard de plusieurs années par rapport à leurs cotisations.
Merci, professeur Bob Kababa. On va considérer cela aussi comme votre conclusion, professeur Maïndo. S'il faudrait réformer l'Union africaine aujourd'hui, quelle forme devrait-elle prendre?
Je pense que si l'on veut véritablement faire réformer l'Union africaine, il faut d'abord qu'on arrête de faire une espèce de mimétisme institutionnel comme on a fait là. On a essayé de copier les modèles de l'Union européenne avec les institutions, les noms, sans qu'on puisse avoir l'esprit et la lettre de ces institutions qu'on copiait. Il faut vraiment qu'on repense qu'est-ce qui nous convient en tant qu'Africains, avec quels moyens on peut y aller. Et moi, je pense que l'Union africaine, pour le moment, la chose la plus facile à faire, ce serait d'abord de faire une intégration économique en partant des ensembles plus régionaux qu'on a là, essayer de faire une intégration régionale globale pour qu'on puisse avoir une Afrique véritablement qui compte sur le plan économique.
Merci, professeur Maïndo. Achille Kabongo, votre conclusion.
J'aimerais dire que des concepts comme le panafricanisme et autres sont relégués au second plan. J'ai vu, on avait lancé l'idée d'un passeport unique. L'Union africaine ne l'a pas soutenu. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va réformer cette organisation. Mais il faudrait qu'il y ait des Africains comme Kwame Nkrumah, la résurgence des gens comme Kwame Nkrumah.
Merci.
Ahmed Sékou Touré.
Merci, Achille Kabongo. Merci, Achille Kabongo. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la vie.